BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, il est presque 7h. Bienvenue dans la matinale de l'économie. On est ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran qui s'accusent mutuellement d'avoir enfreint la trêve. Le détroit d'Ormuz ouvre et ferme au gré des déclarations des deux camps. On va faire un point avec Annalisa Capellini et voir les conséquences sur le pétrole avec Nicolas Panier dans un instant. Et puis, des informations secrètes qui circulent d'Apple chez OpenAI. La firme à la pomme attaque le géant de Sam Altman pour espionner industriel, ce qui pourrait remettre en cause leur fructueuse collaboration. Explication ce matin avec Anthony Morel. Les autres titres ce matin, Léo Dumas.
C'est le flou sur Hormuz, alors Pékin bloque ses exportations d'hélium par crainte de pénurie. Bruxelles enquête sur les canards chinois. Et puis les industriels de la défense vont défiler demain sur les Champs-Élysées.
Dans la prochaine heure, Emmanuel Macron confie à 4 experts une mission cruciale, refonder le financement de la protection sociale. Cette mission servira-t-elle vraiment à rendre notre système rentable ou alimentera-t-elle juste le débat présidentiel? On va en débattre avec Emmanuel Le Chypre et Raphaël Legendre. Ce sera dans un instant à 7h10. Et puis c'est le concurrent direct d'SNCF. Connect Trainline a bien l'intention de grappiller des parts de marché dans la réservation de voyages en Europe. La réglementation va-t-elle le lui permettre? On posera la question à Alexander Ernert, directeur général de Trainline France. À 7h45, ce sera dans le grand entretien, la matinale de l'économie. C'est parti, soyez les bienvenus.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Good morning business, le journal.
Tension maximale au Moyen-Orient, Léo.
Les attaques et représailles mutuelles se sont multipliées tout le week-end entre les États-Unis et l'Iran. Et elles se poursuivent ce matin en suivant le schéma désormais habituel, Annalisa Capellini.
Oui, il y a un but dans les frappes américaines, c'est celui de frapper les capacités militaires iraniennes aux abords du détroit d'Ormuz. Concrètement, selon un responsable américain cité par Axios, il s'agirait de frappes contre les systèmes de missiles de l'Iran ainsi que contre des petites embarcations utilisées par les gardiens de la révolution dans le détroit. Les Iraniens, eux, ciblent plutôt des navires commerciaux dans le détroit et s'en prennent, comme d'habitude, aux intérêts américains dans la région. Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Jordanie, Koweït, tous disent avoir été ciblés par l'Iran ces dernières heures. Mais Téhéran a aussi ciblé Oman, avec qui pourtant les discussions se poursuivent ces derniers jours sur la gestion du détroit d'Ormuz, et le Qatar, qui avait été un des médiateurs dans les négociations avec l'Iran, avec les Américains. C'est comme un symbole que, du côté des Iraniens aussi, l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé au mois de juin n'est plus vraiment en vigueur.
Alors c'est le flou total sur le statut du détroit d'Ormuz, Annalisa.
Oui, parce que ce week-end, l'Iran a annoncé la fermeture du détroit jusqu'à nouvel ordre, je les cite. C'est une information contredite par l'information américaine qui affirme que le détroit reste bien ouvert à tous les navires et que l'armée américaine se charge finalement de garantir la liberté de navigation dans cette voie maritime. Selon un responsable américain cité par Axios, une vingtaine de navires commerciaux ont réussi à franchir le détroit ces dernières heures, toujours en coordination avec l'armée américaine.
Merci Annalisa. Alors il y a cette bataille de récits autour du détroit d'Ormuz. Comment on arbitre ça sur les marchés, Nicolas Pagnès?
Ces incertitudes et ces informations contradictoires sur le trafic maritime font remonter les cours du pétrole. Les deux barils de référence ont progressé de plus de 4% en retrouvant leur niveau de mercredi dernier. Le Brent évoluait cette nuit et ce matin aux alentours des $79, tandis que le WTI est lui repassé au-dessus des $74, hein, sur fond de regain bien sûr des tensions dans le détroit d'Ormuz. Dans les faits, le trafic maritime dans la zone demeure nettement inférieur à la normale depuis la reprise des tensions, et le coût du passage a également lui de nouveau augmenté en raison du risque d'attaque pesant sur les navires. Le maintien du Brent aux alentours des $80, soit bien en deçà des $110 d'avril dernier, montre selon plusieurs analystes que le marché reste pour l'instant convaincu que ni Washington ni Téhéran ne souhaitent aller plus loin dans le conflit. Mais les investisseurs surveillent néanmoins l'évolution de la situation, parce que si le trafic devait être à nouveau durablement bloqué, les pays consommateurs disposeraient de moins de marge de manœuvre pour compenser le choc d'offre par un nouveau déstockage de leurs réserves stratégiques, comme ils l'ont fait ces derniers mois, ce qui pourrait peser sur les cours du pétrole à venir.
Merci Nicolas Pagnès. La reprise des hostilités qui fait aussi bouger quelques quelques lignes sur le front commercial avec Washington d'abord, qui réduit ses restrictions d'exportation stratégique vers les Émirats Arabes Unis. Les ventes de certains équipements militaires, de puces et de satellites vont être autorisées alors que le pays a vu passer son statut de à partenaire majeur de défense des États-Unis. C'est ce qu'explique le ministère américain du Commerce. Dans le même temps, la Chine, elle, suspend ses exportations d'hélium, gaz crucial pour fabriquer des semi-conducteurs. Pékin veut éviter toute pénurie alors qu'il s'approvisionne principalement au Qatar, avec qui les échanges sont perturbés par les attaques iraniennes. Et par ailleurs, ça risque de chauffer un peu plus entre Pékin et Bruxelles. La Commission européenne vient de lancer une enquête anti-dumping sur les canards chinois, après en fait une plainte de 5 producteurs européens, Éline Le Faou.
La menace de nouveaux droits de douane est déjà brandie par les 27. Faut-il encore que les accusations soient confirmées ? La commission affirme en effet que les éleveurs chinois du canard de Pékin, qui sert à préparer le canard laqué, auraient bénéficié de subventions, de prêts avantageux et d'un maïs bon marché pour nourrir leurs élevages. De quoi leur permettre de proposer ce produit à un prix minime ? De nombreux agriculteurs européens dénoncent une concurrence déloyale, néfaste pour leur production. Bruxelles se prépare à une réaction forte, d'autant que ses relations avec Pékin sont déjà tendues. Depuis plusieurs mois, l'Europe multiplie les mesures de défense sur l'acier, les voitures électriques et les petits colis. Mais en s'attaquant à ce produit emblématique, elle s'expose à des représailles plus virulentes. En première ligne, sa filière viticole.
Le défilé du 14 juillet, c'est demain, et cette année sur les Champs-Élysées, les industriels vont défiler eux aussi, Léo.
Oui, pour la première fois, une centaine de réservistes salariés d'Airbus, MBDA ou Ariane Group seront mis à l'honneur, et c'est là un symbole qui en dit long sur le rôle majeur de l'industrie de défense dans le réarmement européen, Jean-Baptiste Huet.
Ils sont ingénieurs, techniciens, cadres, ouvriers. Demain, ils quitteront leur bureau et leur chaîne de production pour défiler sur les Champs-Élysées. Derrière eux, ce sont en réalité les usines de défense qui entrent dans la lumière, celles et ceux qui fabriquent les missiles, les satellites, les lanceurs, les avions, les hélicoptères, les drones. Car une armée ne repose pas seulement sur ses soldats, elle dépend aussi de milliers de fournisseurs, de machines, de composants et de compétences industrielles. Et pour tout cet écosystème, la pression est désormais considérable. Selon les derniers chiffres du cabinet AlixPartners, les dépenses militaires européennes ont bondi de 71% depuis 2020 et pourrait encore augmenter de 400 milliards de dollars d'ici à 2035. Les carnets de commandes débordent, il faut donc accélérer coûte que coûte la production, mais produire davantage ne se décrète pas, il faut ouvrir de nouvelles lignes, recruter, former, sécuriser les matières premières et faire monter toute la chaîne de sous-traitance. Le véritable défi n'est donc plus seulement de voter des milliards ou de commander des armes, mais bien de les livrer rapidement et en série. Et c'est pour ne pas perdre de vue cette nouvelle réalité que les industriels défileront demain au pas.
Aux États-Unis, Apple accuse OpenAI d'espionnage industriel.
Et ça risque bien de devenir le feuilleton judiciaire de cet été dans le monde de la tech, après cette plainte donc déposée devant un tribunal californien, où Apple reproche en fait à la maison mère de ChatGPT de tout faire pour tenter de récupérer ses secrets de fabrication, Anthony Morel.
C'est ça, ce dont OpenAI est accusé, c'est d'avoir mis en place une véritable filière de récupération de secrets industriels, de recruter massivement des salariés chez Apple, dans le but de récupérer toutes leurs connaissances sur les futurs produits et sur les processus de conception des produits de la marque. Au cœur de la plainte, il y a un monsieur qui s'appelle Tang Tan, qui pendant 25 ans a supervisé tout un tas de produits chez Apple. Il a vraiment un très très haut poste, hein, les iPhones, les Apple Watch, et puis il a fini par être débauché par OpenAI. Il se retrouve maintenant patron de la division hardware. Vous savez qu'OpenAI, ils veulent concevoir maintenant leurs propres produits et y intégrer ChatGPT. Bon, très bien. Et c'est à partir de là que tout aurait dérapé. C'est-à-dire qu'OpenAI, par exemple, lors des entretiens d'embauche, demanderait maintenant aux salariés d'Apple qu'ils essayent de recruter des informations confidentielles. Par exemple, de donner plein d'infos sur les futurs produits d'Apple en leur posant des questions de manière assez insistante. On leur demanderait même, dans certains cas, d'apporter des prototypes avec eux lors des entretiens d'embauche. Alors, ceux qui acceptent de le faire savent qu'ils font quelque chose d'illégal, mais en tout cas, ça fait partie des demandes de l'entreprise. Et une fois qu'ils ont signé les contrats, alors là, ça va encore plus loin, ils auraient même mis au point une checklist, c'est-à-dire vraiment des indications pour récupérer le plus d'informations possible et les faire sortir de l'entreprise sans éveiller les soupçons des services de sécurité d'Apple. Alors la plainte regorge d'exemples concrets. un ingénieur, par exemple, qui est parti de chez Apple avec un MacBook plein d'informations confidentielles et un bug qui lui permettait de continuer à avoir accès au système interne de l'entreprise et donc à avoir accès à toutes les futures présentations et les futurs produits d'Apple. Alors, OpenAI dément formellement tout ça. Ils expliquent qu'ils n'ont aucun intérêt, je les cite, dans les secrets industriels d'autres entreprises. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, 400 salariés ont quitté Apple pour rejoindre la maison mère de ChatGPT, attirés notamment par des packages salariaux assez juteux. Ce sera maintenant à la justice de trancher si c'est simplement le jeu de l'offre et de la demande sur le marché du travail ou si cela peut s'apparenter à une forme d'espionnage industriel.
Oui, j'aime bien débaucher aux États-Unis, ça se fait beaucoup, mais enfin, normalement, on n'emmène pas tout ça dans sa valise.
C'est ça.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Les marchés, tout de suite. Nicolas Pagnaise, encore une fois, c'est la thématique intelligence artificielle qui donne le la sur les marchés.
Oui, et notamment aux États-Unis avec cette grande IPO réalisée vendredi au Nasdaq, celle de SK Hynix qui a levé 26,5 milliards de dollars sur le marché américain, alors que l'entreprise est déjà cotée à Séoul où elle a dépassé depuis plusieurs mois les 1000 milliards de dollars de valorisation boursière. On parle ici de la deuxième plus grosse IPO de tous les temps. SK Hynix a progressé vendredi pour son premier jour de cotation de plus de 12% en clôture, après même avoir touché plus 18% en séance. Mais la valeur a-t-elle emmené avec elle tout le secteur? Eh bien, pas tellement. On a vu Nvidia gagner 4%, AMD gagner 2%, Texas Instruments gagner 1%. Mais à l'inverse, des valeurs comme Intel ou Broadcom ont clôturé dans le rouge. Au-delà des semi-conducteurs, les trois indices américains ont clôturé dans le vert vendredi soir. Le S&P 500 gagnait 0,42%, le Nasdaq plus 0,6%, le Dow Jones plus 0,3%. Au niveau des taux, la progression des prix du pétrole se ressent directement, on en parlait il y a un instant, et on voit les taux américains revenir sur des niveaux de mercredi, montrant là aussi une vigilance accrue quand même sur ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz à l'heure actuelle. Le 10 ans US est à 4,58%, le 30 ans américain est à 5,08%. En Europe, les bourses ont clôturé en ordre dispersé, on suivra l'ouverture dans un instant. À noter côté valeur que EasyJet, qui avait annoncé accepter l'offre du fonds d'investissement Apollo, qui avait une offre supérieure à celui de Castle Lake, a vu son titre progressait de 14%. Vodafone, qui va accueillir Xavier Niel comme premier actionnaire du groupe, lui, a vu son titre progresser de 11,5% vendredi.
Et puis le Japon, de son côté, veut inciter à plus d'investissements dans son économie domestique, Nicolas.
Oui, la ministre des Finances japonaise a appelé en fin de semaine dernière le GPIF, le fonds souverain japonais, à investir davantage au Japon. Le GPIF, qui gère environ 1800 milliards de dollars investis en actions japonaises et étrangères, ainsi qu'en obligations japonaises et étrangères, avec un parfait équilibre, c'est 25% à chaque fois. Ce fonds a pris la décision en 2014 de diversifier ses investissements pour aller chercher du rendement à l'étranger. Et bien aujourd'hui, le fait de rapatrier ses investissements au Japon pourrait être la réponse nécessaire à la faiblesse du yen actuel. C'est en tout cas le pari de la ministre des Finances japonaise, mais aussi de nombreux analystes qui estiment que si le GPIF investit plus au Japon, les autres fonds d'investissement pourraient également plus investir au Japon. On rappelle que le yen est sur un plus bas de 40 ans. La parité dollar-yen est aux alentours de 162 à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Nicolas Pagnaise. Le débat tout de suite.
Good morning business, face à le chiffre.
Face à le chiffre ce matin, il y a, j'allais vous appeler Emmanuel Lejean, non, Raphaël
Lejean. Et Raphaël le chiffre.
Bonjour messieurs, Emmanuel Macron confie à 4 experts une mission cruciale, refonder le financement de la protection sociale. Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose, Emmanuel le chiffre?
Oui, ça va servir à quelque chose parce que, il est de bon ton de critiquer ces rapports, de dire que ça sert à rien, etc. Mais en réalité, toutes les grandes réformes ont toujours été précédé de rapports fondateurs. Robert Farman, en 1960, on est au moment de la modernisation économique du général de Gaulle. Nord Amin, en 1978, c'est le rapport qui annonce la révolution numérique 20 ans avant Internet. Avant la réforme de la CSG par Michel Rocard, ce même Michel Rocard avait fait un rapport sur cette CSG. Et puis, rappelez-vous, avant la grande ouverture du débat sur les retraites, il y avait eu le rapport Charpin, le rapport Gallois qui avait conduit au CICE. Et puis même, regardez à l'échelle européenne, quand même, ce rapport Draghi, il a beaucoup fait bouger les choses, puisqu'on nous dit qu'il y a 30% du rapport Draghi qui a déjà été à peu près mis en place. Là, la question de fond, en plus, elle est assez simple. C'est vraiment une question de refondation. Est-ce qu'il faut continuer à financer notre modèle social avec les cotisations sur les salaires, en gros le faire peser sur le travail, ou bien est-ce qu'il faut transférer une partie de son financement vers d'autres assiettes fiscales, sachant qu'il faut raisonner sur l'ensemble finalement, de tous les paramètres qui vont jouer. Et là, c'est la première fois qu'on intègre, finalement, toutes les dimensions du monde qui vient, toutes les grandes tendances du monde qui vient. Le bouleversement démographique, le bouleversement technologique avec l'intelligence artificielle. Donc là, oui, on a quand même un rapport précieux qui est une condition nécessaire pour avoir une refondation de notre modèle social. Malheureusement, ça n'est jamais une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire.
Sur le fond, on est quand même assez d'accord, mais sur la forme, on est à moins d'un an de la présidentielle. Est-ce que ça ne va pas tout simplement alimenter ce débat, Raphaël Legendre, et puis faire pchit après?
Non, mais c'est probablement l'effet le plus puissant que pourra avoir ce rapport, c'est juste alimenter le débat. D'ailleurs, il est fait pour ça. C'est vrai que le sujet, il est absolument majeur, là on est absolument d'accord, mais alors commander un rapport, effectivement, à quelques mois, à 4 mois de l'élection présidentielle, c'est vrai que ça tombe un peu à l'eau.
Un peu plus de 4 mois,
trop,
mais...
On voit pas trop. Bah, s'il arrive en fin d'année, ouais. L'élection présidentielle, ouais, c'est ça, c'est au mois d'avril, là il est attendu pour le mois de décembre, ouais. Ce rapport. Donc il est vraiment fait pour alimenter le débat dans la campagne. Alors, je salue l'optimisme d'Emmanuel Le Chypre, mais enfin, on aurait pu le faire bien avant, quand même, ce rapport. C'est important de nourrir l'optimisme, Emmanuel, dès le lundi matin. Il arrive évidemment après la bataille. On fêtait les 80 ans de la sécurité sociale à l'automne dernier. C'est à ce moment-là qu'il fallait sortir. On attendait d'ailleurs une initiative du président de la République à l'occasion des 80 ans. Il ne s'est absolument rien passé. Alors ensuite, le diagnostic, pardon, mais il est connu depuis plus de 20 ans. Le pays vieillit, évidemment. On a des déficits de la Sécu qui s'accumulent et on ne prend pas les décisions politiques courageuses pour corriger ce déficit. Le déficit de la Sécu, je rappelle, c'est officiellement 23,4 milliards d'euros cette année. Ça devait être 19 et quelques, normalement, en loi de finances. On a déjà dérapé de plus de 3,5 milliards. Auquel il faudrait ajouter 5 milliards de window dressing de l'État qui vient faire des rallonges. En fait, on est à près de 30 milliards de déficit. On n'a aucune crise majeure. Aucune crise majeure. 30 milliards déficit avec notre modèle de sécurité sociale. Oui, mais Raphaël... après, c'est pas compliqué. Soit on augmente les cotisations, on est déjà au taquet. Soit on essaie de s'attaquer un tout petit peu aux dépenses. Et ça, sur la santé, on vieillit, donc ça va être compliqué. Par contre, les retraites, on le sait, sont un dossier majeur. Et j'ai oublié la troisième option. Enfin, il y en avait certaines,
oui,
certainement
c'est
une.
C'est bien pour ça que ce rapport est important. C'est-à-dire qu'on n'est plus là dans des ajustements paramétriques pour savoir comment on fait pour prélever un peu plus ou dépenser un peu moins. Et quand Raphaël dit on sait très bien ce qu'il faut faire, bah non, justement, dans le monde qui vient, on ne sait pas ce qu'il faut faire.
On dit que tout est financé par le travail. Est-ce qu'il y a une autre solution à cela?
Justement.
Il reste une minute.
Oui, mais justement, c'est ça qu'on cherche. Et là, ce qui est quand même très nouveau, parce que vous avez quand même deux genres de rapports. Vous avez les rapports qui sont faits pour gagner du temps. On connaît très bien la réponse, mais on n'ose pas la mettre en place politique. Et là, on a des rapports qui ont besoin de défricher. Moi, je suis désolé. L'équation vieillissement de la population, hausse des dépenses liées à la dépendance, nouvelle forme de précarité avec les familles monoparentales, etc.
Et ça demande des solutions politiques.
Et les effets de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur l'emploi, jamais la réflexion globale de tout ça n'a abouti. Donc, la France est le grand pays de la créativité sociale et fiscale. Et ben, laissons nos quatre économistes de talent, d'ailleurs, qui ne sont pas que économistes.
Le casting
est intéressant.
Alors, le casting est formidable, c'est surtout, on a besoin de politique pour appliquer. Quand on fait des rapports, c'est qu'on ne veut pas trancher. Donc, les problèmes, on les connaît, les solutions, on les connaît aussi. Il faut travailler plus, il n'y a pas le choix, et alléger les cotisations en même temps et réduire les dépenses, ce sont les trois leviers. C'est un choix politique. On a besoin de courage politique.
C'est quand même toujours mieux de savoir où on veut aller.
Et il aura le mérite d'exister. Bon, merci beaucoup, messieurs, le plus.
Good morning business, le plus.
Et nous partons en Espagne ce matin où le pays vit au rythme de températures extrêmes comme nous. Un bracelet thermique, horaire, tenue adaptée. Les autorités et les entreprises espagnoles ont mis en place des mesures particulières quand le mercure grimpe. Une organisation dont la France pourrait peut-être s'inspirer. Reportage d'Alexandra Pagé.
En 2022, un agent de la voirie est décédé des suites d'un coup de chaleur. Un vrai choc pour la population, la société et le gouvernement espagnol. Pour prévenir ce genre de drame, la ville de Barcelone, elle, a équipé ses employés qui ne peuvent bénéficier de la climatisation, travaillent à l'extérieur ou pratiquent une activité physique, de 1400 bracelets thermiques équipés de capteurs. Antonio Reina Arroyo, jardinier, en porte un.
C'est un élément de sécurité supplémentaire, comme il est censé émettre un signal sonore avant même que l'on présente des symptômes. Cela permet de quitter la zone de travail où l'on se trouve, de boire de l'eau, de se mettre à l'ombre. Il nous avertit, c'est un signal d'alerte.
En plus de ce gadget innovant, les horaires des employés municipaux ont été décalés. Une directive nationale prévoit d'ailleurs d'imposer aux entreprises d'adapter les horaires et le rythme de travail de leurs salariés. Ahmed Magassa est ouvrier dans le bâtiment à Madrid.
Avant, je commençais à 8h, mais maintenant il fait très chaud. Alors je commence à 7h et à 5h, c'est fini.
Juan Carlos Rodriguez, lui, est technicien en télécommunication.
Quand on sent qu'on a besoin de s'hydrater, on s'arrête, un point c'est tout. Mais bon, l'entreprise nous impose aussi un certain rythme. À intervalles réguliers, on doit s'hydrater, se rafraîchir et se mouiller la tête selon nos besoins.
Une autre disposition réglementaire prévoit même des congés climatiques qui permettent de ne pas venir travailler quand les conditions météorologiques sont jugées dangereuses. En attendant, certains patrons adoptent aussi des tenues adaptées. Andrea Demilio, gérant d'un restaurant à Madrid, est partisan du short.
Ce que nous essayons d'offrir, c'est un service de qualité, chaleureux, où les gens se sentent bien. Que les serveurs s'habillent d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tous les employés se sentent à l'aise au travail, qu'ils se sentent bien, et donc qu'ils puissent faire du bon travail.
Depuis avril, les terrasses des bars et restaurants sont également fermées en cas d'alerte orange ou rouge de l'agence de météorologie espagnole. Les sanctions infligées par le ministère du Travail aux entreprises pour des infractions liées à la chaleur ont atteint plus d'1,5 million d'euros l'année dernière.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Le monde qui bouge avec Annalisa Cappellini et les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles. Annalisa, un thème à l'ordre du jour, comment interdire le commerce avec les colonies israéliennes en Cisjordanie. Et le sujet est explosif, évidemment.
Oui, c'est même un sujet de guerre entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Kaja Kallas, la chef de la diplomatie. Effectivement, vous avez raison, il y a cette question qui est très compliquée, qui concerne toutes les marchandises qui viennent des colonies situées en dehors des frontières internationalement reconnue d'Israël. Comment empêcher ces marchandises-là d'arriver sur le marché européen? Ça peut paraître très simple, mais techniquement, c'est plus compliqué que ça, en sachant que, évidemment, toute cette question reste purement symbolique parce que, selon les chiffres de la Commission européenne cités par Politico, les échanges avec ces colonies de Cisjordanie ne représentent que 0,5% du total du commerce de l'Union européenne avec Israël. Donc, c'est négligeable du point de vue purement commercial. Aujourd'hui, ces produits-là sont déjà exclus de l'accord entre les Européens et Israël, mais de facto, ils arrivent vraiment sur le marché européen parce qu'on a un problème d'identification. Donc, comment arrêter? Alors, il y a plusieurs options sur la table. D'abord, il y a une interdiction d'importation pure et simple. Il y a plusieurs pays qui militent pour cette option, notamment l'Irlande et l'Espagne. Il y a la mise en place des licences d'exportation. Il y a notamment la France qui insiste pour cette option. La France et la Suède. En réalité, c'est assez compliqué à adapter comme option. Il y a plusieurs obstacles techniques. Et puis, il y a une troisième option, c'est celle d'imposer des droits de douane très élevés qui deviendraient donc prohibitifs. Mais en réalité, ils pourraient être très facilement remboursés par Israël, et donc ça rendrait cette mesure inefficace.
Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord?
Non, sans doute non, parce que déjà, voilà, je vous le disais, il y a ce différent entre Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, qui est quand même le numéro 2 de la Commission. La Commission estime que c'est une décision qui relève de la politique étrangère, donc qu'il faudrait, pour approuver n'importe quelle décision, l'unanimité des 27 États membres. On en est très très loin aujourd'hui, surtout sur un sujet aussi épineux. Il y a une division très profonde en Europe entre deux blocs. Il y a un groupe de pays, une dizaine à peu près, dont la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne notamment, qui insistent pour arrêter tout commerce avec ces colonies. Et puis, il y a une partie de pays qui sont beaucoup plus frileux sur le sujet, l'Allemagne notamment, mais aussi la République tchèque. Pour von der Leyen, donc, désormais, la balle est dans le camp des États membres. C'est à eux de décider quoi faire. Attention, il y a un petit trou de souris technique, et c'est bien ce trou de souris que Kaja Kallas compte exploiter aujourd'hui. Elle voudrait en faire une mesure purement commercial, purement technique, et donc ça demanderait un vote uniquement à la majorité qualifiée. Donc dans ce cas-là, si elle y arrivait, ça serait un immense sujet, un immense succès diplomatique pour Kaja Kallas, et surtout il faudrait regarder ce que font les Italiens, parce que c'est bien le vote des Italiens qui pourrait permettre de basculer dans un sens ou dans l'autre le vote.
Très vite, on aura la réponse aujourd'hui, Annalisa ?
Non, pas avant l'automne, déjà parce que c'est compliqué de se mettre d'accord. Ensuite, les Européens ont bien en tête qu'il y a une échéance électorale en Israël avec les élections législatives prévues fin octobre. Et les Européens veulent surtout éviter de braquer les Israéliens qui pourraient voter pour des extrémistes, des nationalistes de droite. Et c'est pour ça que la prochaine réunion sur le sujet est prévue fin octobre en Europe. Mais voilà, il faudra bien surveiller ce qui se passe cet été dans les couloirs de Bruxelles parce que ça pourrait aussi décider du futur des relations entre les Européens et les Israéliens.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini. Le Monde qui bouge est à retrouver, évidemment, sur notre appli et notre site en replay. Vous l'avez vécu dans la matinale de l'économie cette saison, c'est le pitch.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Good morning business, le pitch.
Il est 6h15 sur BFM Business et sur AMC Life. Le pitch ce matin, c'est avec Francis Nyok. Bienvenue dans la matinale de l'économie. Vous êtes le fondateur de First Doc, une minute pour pitcher et en débrief.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre rendez-vous avec un médecin spécialiste en France en 2025. Moi, si, pour ma mère. En début d'année, elle a eu un petit souci de santé qui a quand même nécessité qu'elle prenne rapidement rendez-vous avec un cardiologue. Sauf que le premier rendez-vous proposé était dans 4 mois. Autant dire une éternité. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches, à regarder un petit peu, à faire littéralement de la veille. Hein. Et bien, m'en a pris puisque je suis passé en quelques jours de 4 mois à 2 semaines et demie d'attente. Et donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a des créneaux qui se libèrent tous les jours, sauf qu'on ne le voit pas. D'où l'idée de First Doc. First Doc, en fait, va agir un petit peu comme une sorte de moteur de recherche, comme un sky scanner, mais pas des vols, mais de la santé, qui va en fait comparer toutes les plateformes de prise de rendez-vous médicaux parce qu'il n'y a pas que Doctolib pour vous proposer la meilleure solution possible en temps réel et vous permettre en fait de descendre vos délais d'attente de presque 70-75%.
Vous dites, il n'y a pas que Doctolib, mais combien ne sont pas sur Doctolib? Parce que moi, jamais été ailleurs que sur Doctolib.
En fait, c'est ça. En fait, Doctolib, ils ont une sorte de monopole qui pose un peu problème. C'est que tout le monde maintenant se gouffre et va directement prendre rendez-vous chez Doctolib, moi le premier. Sauf qu'en fait, Doctolib n'ont que 50% du parc médical. Ce qui fait que quand vous voulez prendre rendez-vous via Doctolib, vous coupez de facto un médecin sur deux.
Mais il y a d'autres sites alors?
Il y a d'autres sites,
ça nous intéresse.
Qu'on prenne rendez-vous.
Il y a Maya, il y a Keldoc, il y a aussi des cabinets privés, il y a des cliniques privées qui ont leur propre prise de rendez-vous.
Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Vous récupérez aussi les données via toutes les cliniques privées qui ne mettent pas forcément leur créneau sur Doctolib.
Exactement.
Alors, la question que j'avais, c'était, du coup, pour récupérer ces données, vous devez faire ce qu'on appelle du scraping, c'est-à-dire vous extrayez les données de Doctolib, j'imagine sans leur demander leur autorisation. Donc, est-ce que c'est pas un peu délicat? Est-ce que c'est légal déjà? Et puis surtout, est-ce que vous risquez pas à un moment Doctolib, si vous avez un petit peu de succès, ils vont se dire attendez, c'est quoi ça les gars? Et ils vont vous couper l'accès tout simplement.
Bah, pour l'instant, ce sont des données publiques, c'est-à-dire que ce sont des données que vous pouvez avoir. Si vous voulez avoir rendez-vous demain avec un cardiologue, vous allez pouvoir avoir la date du rendez-vous et quand sera le rendez-vous. Donc nous, c'est un petit peu la même chose qu'on fait. L'idée demain, effectivement, c'est de pouvoir travailler en fait main dans la main avec ces différentes plateformes, que ce soit Doctolib mais aussi les autres, hein, et pour pouvoir vraiment créer quelque chose. Parce que l'idée, en fait, finalement, c'est de pouvoir rendre service aux patients. Nous, on n'est pas là pour concurrencer Doctolib ou quoi que ce soit. On est juste là pour essayer d'agréger en fait tous les rendez-vous et de permettre en fait aux patients de pouvoir prendre rendez-vous où que ce soit. Donc si c'est sur Doctolib, tant mieux pour Doctolib. En fait, on n'est pas là pour embêter Doctolib.
Mais c'est quoi le modèle économique? Qui est-ce qui paye?
Alors le modèle économique, l'idée au départ, c'est qu'on voudrait que ce soit le moins possible taxé par rapport aux patients. Donc si maximum ce serait un business plan qui serait aux alentours de 15-20 euros par an pour le patient, mais ce qu'on aimerait au final, c'est que ce soit plus une commission qui soit soit au clic, soit au succès du côté en
B2B. Ah, parce que l'idée de payer pour prendre rendez-vous,
c'est pour ça que
dur.
C'est un fast pass, c'est comme à Disneyland.
Ouais. C'est un fast pass.
Mais c'est pour ça que cette idée au départ, c'est plus de pouvoir travailler en B2B et de faire de telle sorte que ce soit justement Doctolib et les autres plateformes qui justement au rendez-vous et même à la direction, c'est-à-dire dès que quelqu'un va dans leur plateforme, c'est quelque part c'est un service qu'on leur rend.
Mais là, vous parlez au conditionnel, c'est-à-dire que la plateforme elle est pas encore disponible, on peut pas encore utiliser ces outils-là.
En fait, la plateforme elle est disponible, mais seulement sur la région. Moi, je viens de Lyon, normalement dans cette région. Mais l'idée, c'est que très vite, en fait, on puisse avoir un produit qui permette de pouvoir fonctionner sur le plan national. Donc, on cherche des investisseurs forcément aussi pour pouvoir fortifier tout ça.
Vous êtes en cours de levée de fonds?
On est en cours de levée de fonds, mais on recherche encore des investisseurs. Ouais.
Vous cherchez combien?
On cherche aux alentours de 500, 700, 700 000 euros.
Voilà, c'était le pitch que vous avez vécu cette saison dans la matinale de l'économie. Dans un instant, le journal de 7h30, la semaine du marathon budgétaire. Matignon doit rendre ses premiers arbitrages avant mercredi. On va en parler évidemment. Et puis mon invité dans le grand entretien de 7h45, ce sera Alexander Ehrnert, le directeur général de Trainline France. On se retrouve tout de suite.
Good morning business. Le journal.
7h30, les titres, Léo.
Les lettres de cadrage vont tomber pour le prochain budget. Les socialistes les attendent pied au plancher pour négocier. On verra ça dès le début de ce journal. Le MEDEF s'inquiète du volet eau de la loi d'urgence agricole. On verra pourquoi. Et puis le conseil d'administration de Casino choisit la solution Kretinsky pour restructurer la dette du groupe. C'est donc le coup d'envoi cette semaine du marathon budgétaire. Matignon doit rendre ses premiers arbitrages avant mercredi. Ça passe par l'envoi des lettres de cadrage qui permettront d'entrer dans le dur des discussions, Caroline Morisseau.
Ces arbitrages ont valeur de test. On va s'assurer que tout ce que nous avons négocié dans le dernier budget soit bien respecté, nous dit un ténor socialiste. Prime d'activité, ma prime rénov, repas 1 euro pour les étudiants. Le gouvernement a déjà fait une première entorse en gelant une partie du fonds vert pour compenser le coût de la guerre en Iran. Il ne faudrait pas qu'il remette en cause d'autres concessions accordées aux socialistes, prévient l'un d'eux. Ce sera un premier signal avant le budget, ajoute cette même source. Jusqu'ici, l'exécutif s'est dit prêt à faire comme l'an dernier, discuter avec le PS pour trouver un compromis, mais à ce stade, les responsables socialistes n'ont échangé qu'avec David Amiel, le ministre du Budget, pas avec Sébastien Lecornu, nous disent-ils. Or, le Premier ministre est de plus en plus tiraillé. Difficile de négocier avec le PS sans se mettre à dos les députés du socle commun, particulièrement en pleine campagne présidentielle. Les socialistes risquent de faire monter les enchères et à droite, certains préfèrent encore un budget passé par ordonnance qu'un nouveau deal coûteux avec la gauche.
Et il y a au moins une ligne dans le budget qui ne bougera pas, c'est celle pour les armées, à qui Emmanuel Macron adressera d'ailleurs un discours en cette veille de 14 juillet, le chef de l'État qui en profitera pour faire le bilan de la modernisation engagée dans la défense française, Hugo Babet.
La promesse du 14 juillet 2025 sera conclue cet été. L'actualisation de la loi de programmation militaire sera promulguée d'ici le mois prochain et avec elle la garantie que l'enveloppe de la défense ne baissera pas. Ni les coûts budgétaires liés à la guerre au Moyen-Orient, ni la négociation du budget 2027 ne devraient affecter les 36 milliards d'euros de l'actualisation de la programmation militaire, nous disent députés comme gouvernement. Emmanuel Macron va aussi tirer le bilan de la modernisation des armées qui sera visible demain sur les Champs-Élysées. Sont attendus au défilé les nouveaux blindés Jaguar et Griffon, ainsi qu'une soixantaine de drones et de nouvelles capacités de lutte anti-aérienne. Priorité affichée de l'actualisation de la programmation militaire. Une accélération toujours jugée insuffisante par la majorité sénatoriale et divers au gradé. Il pousse à un effort relevé à 50 milliards d'euros en 2027, notamment dans l'équipement numérique des chars et la production massive de drones.
La loi d'urgence agricole à nouveau entre les mains des parlementaires, Léo.
Oui, le texte arrive cette semaine en commission mixte paritaire, mais avant le début des débats entre députés et sénateurs, c'est le MEDEF qui sort du bois pour dénoncer en fait un accaparement des ressources en eau par les agriculteurs au détriment des industriels, Astrée Olivier.
L'eau est un bien commun à partager, martèle le patronat. Le MEDEF est inquiet par la loi d'urgence agricole qui prévoit de doubler les volumes d'eau stockés d'ici à 2035 uniquement pour les usages agricoles, au détriment donc de la chimie, papeterie, agroalimentaire et métallurgie qui ont besoin d'eau pour produire. 600 litres d'eau pour 1 kg d'acier par exemple ou 400 litres pour 1 kg de carton. Ces industries pèsent 7,5% de la consommation d'eau annuelle en France, c'est à peine moins que pour l'irrigation des cultures qui en capte 10%. Ce texte est d'autant plus injuste pour le patronat que les industriels se plient à des normes strictes pour diminuer leur consommation en eau depuis les années 90. Avec la généralisation des circuits fermés de refroidissement par exemple, le recyclage de l'eau dans les usines et des investissements dans des process industriels moins gourmands en eau, le MEDEF pousse pour une agriculture moins hydrovore qui sera davantage compatible avec les sécheresses annoncées à cause du réchauffement climatique.
Et la chaleur pousse EDF à mettre 3 nouveaux réacteurs nucléaires sur pause. 7 autres sont en puissance réduite pour se conformer justement aux limites des températures de l'eau des fleuves. Météo France, d'ailleurs, maintient 37 départements en vigilance maximale canicule ce matin.
L'actualité des entreprises est enfin une porte de sortie dans le dossier Casino Léo.
Oui, c'est le plan de Daniel Kretinsky qui a finalement été choisi par le conseil d'administration pour restructurer le 1,4 milliard de dettes du groupe au détriment donc de la prise de contrôle proposée par les créanciers, Margot Fodéré.
Oui, le conseil d'administration a considéré, je cite, que la proposition de l'actionnaire, faute d'accord consensuel, est celle qui sert le mieux l'intérêt social du groupe. Voilà, donc c'est comme cela que le distributeur présente la situation dans un communiqué qui a été publié en fin de semaine dernière. Mais pour autant, le bras de fer n'est pas totalement fini. Désormais, c'est aux banques de trancher, puisque le conseil d'administration a explicitement posé 2 conditions préalables à la validation finale de l'accord. D'abord, sur le fond, Casino invite en fait les banques à admettre qu'il y a des divergences et donc il leur demande d'abandonner l'idée d'un accord qui serait validé par les 2/3 des créanciers. Jusqu'ici, pourtant, on sait que c'était un critère essentiel pour les banques qui sont attentives à ne pas favoriser une partie plus que l'autre. Et donc, justement, pour éviter aussi de créer un conflit avec les créanciers, eh bien le conseil d'administration demande aux banques d'aligner les termes du package de sûreté des créanciers sur leurs propres termes. Concrètement, ça veut dire qu'en cas de faillite, les créanciers ne seraient pas lésés, ils seraient mis sur un pied d'égalité. Le processus est lancé puisque les banques ont indiqué avoir saisi leur comité pour statuer d'ici le 20 juillet. Et si elles approuvent ces différents points, Casino compte ensuite lancer la procédure en visant une mise en œuvre d'ici la fin de l'année.
Merci beaucoup Margot. Xavier Niel, bientôt premier actionnaire de Vodafone.
Oui, le fondateur de Free va prendre 16% du capital de l'opérateur, 5 milliards d'euros. Alors ce mouvement a été salué à la Bourse de Londres où le titre Vodafone a pris 11% vendredi après cette annonce qui permet donc à Xavier Niel de tisser encore un peu plus sa toile à l'étranger, le milliardaire qui est en fait aux côtés d'Orange, le vrai chef de file de la consolidation des télécoms en Europe, Mathieu Pechberti.
Parti de rien en France puis en Italie en 2018, Xavier Niel a ensuite multiplié les acquisitions en Pologne, en Irlande, en Suède et même en Ukraine juste avant la guerre. Il compte aujourd'hui plus de 50 millions d'abonnés fixes et mobiles en Europe. Grâce à Vodafone, le fondateur de Free va pouvoir entrer en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Espagne. Orange vient de consolider le marché. Les deux opérateurs français cherchent à réduire le nombre d'acteurs en Europe pour se hisser à la hauteur de Deutsche Telekom qui pèse 60 milliards d'euros en bourse. Avec Free et ses sociétés personnelles, l'empire télécom de Xavier Niel pèse 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 9 milliards de marge, soit une valorisation estimée de plus de 50 milliards d'euros. Sur le podium européen, Xavier Niel reste encore derrière Deutsche Telekom, qui profite de la forte rentabilité de l'opérateur américain T-Mobile. Les États-Unis sont le dernier marché que le milliardaire français ne parvient pas à conquérir.
Et puis J-1 pour avant l'IPO du slip français, ses dirigeants vont sonner la cloche. Next Paris, pour la première fois, sera demain matin à 9h. La période de souscription a été concluante. Il se félicite d'un large succès populaire, Pauline Tadevin.
Chez les dirigeants du slip français en fin de semaine dernière, c'était l'euphorie. Plus de 7250 actionnaires particuliers ont souscrit, ainsi que des investisseurs institutionnels et d'autres industriels du secteur, pour une demande globale de 13,7 millions d'euros. Au total, l'opération a été sursouscrite 1,15 fois. 15 ans après sa création, après avoir connu des hauts et des bas et changé de business model, la marque va être cotée sur Euronext Paris. Cette introduction en bourse citoyenne est unique pour une PME textile en France, selon sa directrice exécutive, qui veut y voir le signe d'un mouvement populaire derrière son projet de relocalisation de cette industrie. À ses nouveaux actionnaires, le slip français a vanté une société en croissance, 700 000 euros de résultats nets et l'objectif de doubler les ventes d'ici 2030 à plus de 40 millions d'euros. Les fonds levés doivent permettre d'accélérer sur le marketing, d'accroître les capacités de production et de fabriquer de plus en plus aussi dans ses usines pour d'autres marques.
Et Guillaume Gibault et Léa Marie, sa directrice exécutives seront tout à l'heure dans Good Morning Market. Nicolas Pagnès, ce sera à 9h05. Les marchés, tout de suite. En attendant, Nicolas, Delta Airlines dépasse les attentes, mais déçoit les investisseurs.
Oui, Delta Airlines a publié ses résultats vendredi, des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires en progression de 19% à près de 20 milliards de dollars. Le résultat opérationnel ajusté ainsi que le résultat net sont toutefois en recul de leur côté. Le résultat net ressort en baisse de 26% à 1 milliard de dollars. Le groupe se félicite tout de même d'avoir réussi à atteindre un tel niveau de chiffre d'affaires et de résultats dans un contexte de forte hausse des prix du carburant. Le directeur général du groupe évoque même la facture carburant trimestrielle la plus élevée de l'histoire de Delta Airlines. Le groupe a pu compter sur une demande solide et anticipe à présent retrouver une croissance de ses bénéfices au second semestre avec des marges à deux chiffres. Mais ces résultats n'ont manifestement pas convaincu les investisseurs puisque le titre perdait près de 2% à Wall Street vendredi.
La Chine, très vite, hein, souhaite que les agences de notation se montrent plus dures dans leurs analyses.
Oui, le régulateur chinois s'intéresse de la fiabilité des notations sur le risque du marché obligataire. Le Financial Times rapporte qu'en avril dernier, la Banque Populaire de Chine a demandé aux agences nationales de réexaminer un certain nombre de notations de crédit, notamment en ce qui concerne toutes les obligations dont le rendement serait plus élevé que celui de la dette publique et dont le risque serait plus élevé normalement également. La Banque Populaire de Chine qui s'est interrogée sur la fiabilité de ces notations alors que 90% des obligations émises au premier semestre ont obtenu la note de triple A contre la moitié sur la même période il y a 10 ans. Cela a eu pour effet immédiat la suspension d'un certain nombre de notes de la part des agences de notation chinoises.
Merci Nicolas. Dans un instant, le grand entretien. Je reçois Alexander Hernert, le directeur général de Trainline France, l'un des plus gros concurrents de SNCF Connect. On va parler d'été, on va parler de concurrence, on va parler d'IA. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien par voyage ce matin avec Alexander Hernert, directeur général de Trainline France. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec moi dans cette matinale de l'économie. Trainline, première plateforme de vente de billets de train et de bus en Europe. Vous êtes le concurrent direct de ce qu'on connaît très bien en France, c'est SNCF Connect. Vous traitez 350 recherches de voyage chaque seconde, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Vous gérez plusieurs millions de trajets chaque mois. Un petit point de situation sur cet été, on est sur le 14 juillet. Comment se présentent les réservations de cet été ? Est-ce qu'on a déjà un premier bilan ?
C'est en augmentation parce que les Français adorent prendre le train pour les vacances et on remarque déjà maintenant avec le petit pont au 14 juillet qu'il y a des augmentations avec les réservations, notamment sur les grandes villes, donc Lyon et Marseille naturellement, mais on augmente, on voit aussi qu'il y a des augmentations par exemple pour des petites villes comme Annemasse, Hendaye, Granville, qui ont aussi des augmentations à peu près de 30% et plus.
On voit que c'est au nord, effectivement. Donc ça, c'est peut-être les conditions météo. Est-ce que ça a un impact sur le comportement des voyageurs et donc sur ces réservations?
Je pense pour l'instant, on ne voit pas vraiment qu'il y a d'impact nord et sud, mais ce qu'on remarque, comme toujours, que c'est les Français adorent prendre les vacances dans la montagne et au littoral.
Est-ce que le manque de trains dont a parlé Jean Castex la semaine dernière, il a demandé à ce que ces trains soient enfin livrés, est plus important cette année ? Et est-ce que ça impacte justement les réservations sur d'autres compagnies que vous distribuez ?
Oui, d'abord, c'est une bonne chose qu'il y a d'autres compagnies ferroviaires maintenant sur place qui peuvent augmenter l'offre. Donc, vous avez Trenitalia sur Paris-Lyon, Paris-Marseille. Donc là, on remarque une grande augmentation des réservations autour de trois fois de plus pour Paris-Marseille, deux fois pour Paris-Lyon, mais également pour Paris-Milan. Donc, c'est un grand bénéfice qu'il y a cette augmentation.
Vous faites des réservations de train, de bus. Vous faites l'avion aussi, vous ne faites pas l'avion?
Non, Trainline fait seulement train et bus parce qu'on veut rester sur la soutenabilité. Et on a à peu près 280 opérateurs ferroviaires et de bus dans notre inventaire. Donc, ça veut dire qu'on a l'inventaire complète européenne. Vous pouvez voyager avec nous, disons, de Berlin à Zaragoza dans une réservation qui est aussi simple que si vous réservez sur SNCF Connect votre trajet de train et de bus. Et l'avantage majeur de notre site, c'est vraiment que vous pouvez réserver l'aller, par exemple, avec une compagnie, le retour avec l'autre. Vous pouvez connecter plusieurs opérateurs ferroviaires et des bus également.
Vous parliez tout à l'heure de Trenitalia. Il y a Renfe aussi qui est sur votre offre. Et il y a ce projet de loi cadre relatif au développement des transports. Alors, les concurrents de SNCF Connect dans leur ensemble pressent les pouvoirs publics de contraindre la plateforme à distribuer l'ensemble des billets des opérateurs ferroviaires, mais pas vous. vous avez un sentiment contraire. Expliquez-nous.
Oui, d'abord, c'est parce que vous savez, SNCF Connect, c'est une filiale de la SNCF.
Oui.
Donc, naturellement, c'est, à notre avis, c'est compliqué de faire quelqu'un qui est en déjà dominante, encore plus dominante après. Le deuxième sujet avec ça, ça veut dire que les clients n'ont pas tous les avantages qu'ils reçoivent sur les distributeurs indépendants comme Trainline, mais il y a aussi encore d'autres compagnies qui sont dans cet domaine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence dans la distribution qui était extrêmement important pour le développement aussi de SNCF Connect, parce que vous savez, Trainline est déjà dans le marché depuis 10 ans maintenant. On est arrivé avant qu'il y avait SNCF Connect. On a acheté Capitaine Train en 2016, donc on fête notre anniversaire de 10 ans maintenant en France aussi. Et ce qu'on voit, c'est à l'époque, il n'y avait pas de distributeur numérique des billets de transport. Donc, c'est grâce à Trainline et son développement aussi que SNCF Connect s'est lancé. Donc, on voit ses bénéfices et on pense si maintenant SNCF Connect va devenir encore plus dominante, oui, le voyageur n'a pas la possibilité de vraiment trouver le meilleur trajet pour lui. Aussi parce que Trainline est une entreprise indépendante. Donc, ça veut dire qu'elle ne dépend pas d'une entreprise ferroviaire. Qui veut dire que notre intention, c'est toujours de trouver le meilleur voyage pour le voyageur ferroviaire, qui peut être un peu différente si vous êtes lié à une entreprise ferroviaire, que peut-être il y a aussi des incitations de trouver les meilleures incitations pour aller sur les produits de la SNCF.
Quand saurez-vous si vous allez être entendu sur ce dossier-là ?
Pardon ?
Quand aurez-vous la réponse si c'est accepté ou pas ?
C'est une grande question à l'instant parce qu'on ne sait pas exactement quand cet projet de loi cadre sur les transports va être inscrit au Parlement. Mais on a suivi le processus depuis janvier. On a été auditionné par le Sénat et également par le Parlement, par l'Assemblée nationale.
Vous parliez tout à l'heure de votre développement et du fait que vous avez finalement été un des premiers à faire ce genre d'offre de distribution de voyages en Europe. Qu'est-ce qui va faire la différence et vous faire gagner des parts de marché à l'avenir ? Il nous reste 2 minutes. Vous avez évidemment commencé à mettre de l'intelligence artificielle, à être sur les principaux sur ChatGPT par exemple. Qu'est-ce qui va vous faire avancer et vous faire gagner des parts de marché par rapport à SNCF Connect spécifiquement en France par exemple?
Oui, d'abord j'ai parlé qu'on a notre anniversaire de 10 ans, oui, en France, mais on a aussi 20 ans au Royaume-Uni, donc l'entreprise existe depuis 29 ans, qui veut dire qu'on a une grande expérience avec les sujets intelligence artificielle maintenant déjà et avec d'autres choses qui sont liées aux données et au sujet numérique. Donc, on pense, parce qu'on a mis en place, par exemple, en Angleterre, déjà une assistante de voyage qui vous dit pas seulement que vous êtes en retard, mais qui peut vous dire aussi que si vous pouvez prendre le train prochain, s'il est dans l'heure, s'il n'est pas dans l'heure, etc. Donc, ça vous facilite déjà votre voyage. On a aussi sur notre site une prédiction des prix. Donc, sur le site de Trainline France, déjà, on vous montre si c'est plus avantageux d'acheter vos billets maintenant ou d'attendre parce qu'il devient plus cher ou l'inverse. Donc, ce sont déjà des petites choses qui sont différentes à SNCF. Et de plus, notre site est aussi beaucoup plus vite. Donc, si vous voulez vraiment intégrer des trajets avec des entreprises ferroviaires différentes que la SNCF, c'est beaucoup plus facile de le faire avec nous.
Ce que vous dites sur les prix, c'est qu'on va pouvoir un petit peu rentrer dans le système des algorithmes, challenger les algorithmes pour éviter que ces algorithmes ne nous mettent un voyage le plus cher possible. Parce que je ne vous cache pas que quand on réserve un voyage, on a un peu l'impression à chaque fois de prendre le tarif maximum.
Oui, naturellement, et c'est ça exactement la différenciation avec Trainline. Vous avez la possibilité de toujours trouver le trajet le moins cher. Donc, notre site essaye de vous trouver cet trajet en combinaison des différents opérateurs ferroviaires. Mais si vous voulez même faire des trajets multimodaux, on peut combiner exactement aussi les bus. Donc, c'est normalement moins cher. Et encore une fois, on ne va pas préférencier un produit parce qu'on a des liaisons spéciales avec une compagnie.
L'indépendance.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Alexander Ernert, d'être venu dans la matinale de l'économie. Directeur général de Trainline France avec nous ce matin. Dans un instant, on continue le journal de 8 heures et cette nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran qui s'accusent mutuellement d'avoir enfreint la trêve. On verra exactement ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz, les conséquences aussi sur les marchés. Restez avec nous.
Tout BFM Business s'écoute en qualité numérique avec le DAB+. Partout en France, écoutez BFM Business, mais aussi RMC et BFM Radio, la déclinaison radio de BFM TV, grâce à cette nouvelle technologie DAB+. BFM Business, première sur l'écho.
Good morning business, l'édito de Legendre.
Oui, parce que j'ai oublié votre édito, Raphaël Legendre. Non. Je suis toute perturbée par ces horaires d'été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, on parle d'Emmanuel Macron qui va prononcer son dernier discours aux armées avant d'assister demain à son 10e et dernier défilé du 14 juillet. Une décennie qui avait très mal commencé entre le chef de l'État et les militaires. Mais qui se termine sur des promesses tenues, nous dites-vous.
Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier discours aux armées d'Emmanuel Macron. C'était en 2017, effectivement. Et il avait été marqué par une passe d'armes entre le président de la République et le chef d'état-major des armées, le général d'armée Pierre de Villiers. Pierre de Villiers qui était sorti dans la presse un peu avant le 13 juillet. Pour dire tout le mal qu'il pensait des coupes budgétaires qui étaient prévues sur le budget de la défense. Il s'était fait sèchement recadrer par le président de la République lors de son premier discours aux armées, vous savez, tous les 13 juillet au soir à l'hôtel de Brienne avant le défilé du 14 juillet, c'est la tradition. Et bien là, Emmanuel Macron, pour son premier discours, était arrivé en mode « c'est moi le patron, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit et sûrement pas de l'armée qui devrait rester à sa place ». Et Emmanuel Macron l'avait tout simplement limogé, ouais. 5 jours plus tard, le 19 juillet. Ça avait vraiment marqué le début du quinquennat du nouveau président. Du coup, on a un peu oublié ce qu'il avait dit dans son discours du 13 juillet 2017. Et là, il faut reconnaître quand même une certaine vista du président de la République. 5 ans avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, le président parlait déjà de réaffirmation des politiques de puissance des empires. Il parlait souveraineté européenne et autonomie et il parlait défense européenne.
Des thèmes qui n'ont pas pris une ride, effectivement, 10 ans plus tard.
Ben non, effectivement, puisque cette année encore, le thème officiel du 14 juillet sera le réarmement stratégique de la France et le réveil stratégique de l'Europe. Donc on voit qu'on n'a absolument pas changé et qu'il était très en amont sur ces thématiques, l'un des premiers en Europe. Et ce qu'on peut dire ce matin, c'est que si la relation entre les militaires et Emmanuel Macron n'a pas été simple au départ, bien au final, le président aura quand même tenu ses promesses, notamment sur le nerf de la guerre qui est l'argent. En 2017, Emmanuel Macron avait promis 2 points de PIB de budget pour la défense. Eh bien, promesse tenue, c'est 2,05 précisément au sens de l'OTAN. 1,7 si on prend les seuls crédits budgétaires hors pension, mais quand même, on y est, le budget de l'armée aura tout simplement doublé en 10 ans. Il est passé de 32 à 64 milliards d'euros par an avec une armée modernisée, 3000 jeunes qui vont entamer une forme de service national à la rentrée et un nouveau porte-avions tout beau tout neuf attendu en 2038.
Bon, le temps est fini, mais qu'est-ce qu'il faut attendre très vite du 14 juillet?
Alors, pour le 14 juillet, on nous promet, c'est le jubilé du président, c'est un show massif, historique même, promet l'Élysée avec 30% de véhicules en plus, 30% d'aéronefs en plus, surtout un grand défilé européen. Toutes les nations seront représentées, énormément de pilotes de l'aviation de différents pays. Ce sera un spectacle formidable pour marquer l'émergence de l'Europe comme force militaire autonome et stratégique.
Merci beaucoup Raphaël Legendre. Je vous le promis tout à l'heure, dans un instant, journal de 8h. Et on va revenir sur ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz avec Annalisa Capellini. Restez avec nous, à tout de suite.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Il est presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. On va parler de cette nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran qui s'accusent mutuellement d'avoir enfreint la trêve. Le détroit d'Ormuz ouvre et ferme au gré des déclarations des deux camps. On va faire un point avec Annalisa Capellini dans un instant et voir les conséquences sur les marchés avec Nicolas Pagnaise. Des informations secrètes qui circulent d'Apple chez OpenAI. La firme à la pomme attaque le géant de Sam Altman pour espionnage industriel, ce qui pourrait remettre en cause leur fructueuse collaboration. On va en parler avec Anthony Morel. Les autres titres ce matin, Léo.
Bruxelles enquête sur les canards chinois. Les industriels de la défense vont défiler demain sur les Champs-Élysées. Et puis il y a une grève en Corée du Sud pour réclamer des primes et pour réclamer aussi le report de l'âge de départ à la retraite.
Dans la prochaine heure, on parlera d'énergie renouvelable. La France compte plus d'un million de producteurs d'énergie renouvelable. Parcs éoliens, producteurs de biogaz, fermes photovoltaïques. À 8h15, on va recevoir Bor Energy, start-up toulousaine qui accompagne ses indépendants dans l'accès au marché de l'électricité. Ce sera dans la French Tech. Et puis elle a repris les fleurs durables Florette l'année dernière. Elle s'est aussi dressée contre les mauvaises pratiques du BHV. Margot Prévost, repreneuse convaincue, nous dira ce qu'elle attend de cette année présidentielle. Ce sera dans Parole de patron à 8h20. Il y aura aussi le club de la bourse après le journal de 8h30. On continue la matinale de l'économie. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Et ces tensions maximales donc au Moyen-Orient, Léo.
Oui, avec des attaques et des représailles mutuelles qui se sont multipliées tout le week-end entre les États-Unis et l'Iran et qui se poursuivent ce matin en suivant le schéma qui est désormais habituel, Annalisa Capellini.
Oui, cette nouvelle escalade côté américain, elle a un but clair, c'est celui de frapper les capacités militaires iraniennes aux abords du détroit d'Ormuz. Concrètement, selon un responsable américain cité par Axios, il s'agirait de frappes contre les systèmes de missiles de l'Iran ainsi que contre des petites embarcations utilisées dans le détroit d'Ormuz par les gardiens de la Révolution. Les Iraniens, eux, ciblent plutôt des navires commerciaux dans le détroit et ils s'en prennent, comme d'habitude, aux intérêts américains dans la région. Bahreïn, Émirats arabes unis, Jordanie, Koweït, tous disent avoir été ciblés par l'Iran ces dernières heures. Mais Téhéran a ciblé aussi Oman, avec qui pourtant les discussions se poursuivent sur la gestion du détroit d'Ormuz, et le Qatar. Le Qatar qui avait été un des médiateurs dans les négociations avec les Américains, comme un symbole qui nous dit que chez les Iraniens aussi, l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé au mois de juin dernier n'est désormais plus en vigueur.
C'est le flou total sur le statut du détroit d'Ormuz, Annalisa.
Absolument, parce que ce week-end, l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre, je les cite. Cette information a été contredite par l'administration américaine qui affirme que le détroit reste bien ouvert à tous les navires et que c'est l'armée américaine qui se charge de garantir la liberté de navigation dans cette voie maritime. Selon un responsable américain cité par Axios, une vingtaine de navires commerciaux ont réussi à franchir le détroit ces dernières heures, toujours grâce à la coordination de l'armée américaine.
Merci Annalisa, cette bataille de récits donc autour du détroit d'Ormuz. Alors comment les marchés arbitrent ces informations ce matin, Nicolas Pagnaise ?
Eh bien justement, les incertitudes et les informations mentionnées à l'instant contradictoires sur le trafic maritime font remonter les cours du pétrole. Les deux barils de référence ont progressé de plus de 4%, retrouvant leur niveau de mercredi dernier. Le Brent évolue à l'heure actuelle aux alentours des $79. Le WTI est repassé au-dessus des $74 sur fond donc de regains de tension dans le détroit d'Ormuz. Dans les faits, le trafic maritime dans la zone demeure nettement inférieur à la normale depuis la reprise des tensions et le coût du passage a également lui aussi de nouveau augmenté en raison du risque d'attaque pesant sur les navires. Ce maintien du Brent aux alentours des $80, soit bien en dessous des $110 tout de même que l'on a connu en avril dernier, montre selon plusieurs analystes que le marché reste pour l'instant convaincu que ni Washington ni Téhéran ne souhaitent aller plus loin dans le conflit. Mais les investisseurs surveillent néanmoins de près l'évolution de la situation parce que si le trafic devait être de nouveau durablement bloqué, les pays consommateurs de pétrole disposeraient de moins de marge de manœuvre pour compenser le choc d'offre par un nouveau déstockage de leurs réserves stratégiques, ce qui pourrait peser sur les cours du pétrole à venir.
Merci Nicolas Pagnaise. La reprise des hostilités qui fait aussi bouger quelques lignes sur le front commercial avec Washington d'abord, qui réduit des restrictions d'exportation stratégique vers les Émirats Arabes Unis. Les ventes de certains équipements militaires de puces et de satellites vont être autorisées sécurisée alors que le pays est devenu partenaire majeur de défense des États-Unis, explique le ministère américain du Commerce. Dans le même temps, la Chine, elle, suspend ses exportations d'hélium, le gaz crucial pour fabriquer notamment des semi-conducteurs. Pékin veut éviter toute pénurie alors qu'il s'approvisionne principalement au Qatar, avec qui les échanges sont perturbés par les attaques iraniennes. Et puis par ailleurs, toujours sur ces questions commerciales, ça risque de chauffer un peu plus entre Pékin et Bruxelles, puisque la Commission européenne vient de lancer une enquête anti-dumping sur les canards chinois, après en fait une plainte de 5 producteurs européens, Éline Le Faou.
La menace de nouveaux droits de douane est déjà brandie par les 27. Faut-il encore que les accusations soient confirmées ? La commission affirme en effet que les éleveurs chinois du canard de Pékin, qui sert à préparer le canard laqué, auraient bénéficié de subventions, de prêts avantageux et d'un maïs bon marché pour nourrir leurs élevages. De quoi leur permettre de proposer ce produit à un prix minime ? De nombreux agriculteurs européens dénoncent une concurrence déloyale, néfaste pour leur production. Bruxelles se prépare à une réaction forte, d'autant que ses relations avec Pékin sont déjà tendues. Depuis plusieurs mois, l'Europe multiplie les mesures de défense sur l'acier, les voitures électriques et les petits colis. Mais en s'attaquant à ce produit emblématique, elle s'expose à des représailles plus virulentes. En première ligne, sa filière viticole.
Le défilé du 14 juillet, c'est demain, et cette année sur les Champs-Élysées vont défiler aussi des industriels, Léo.
Oui, pour la première fois, une centaine de réservistes salariés d'Airbus, de MBDA ou d'Ariane Group seront mis à l'honneur. Et c'est là un symbole qui en dit long sur le rôle désormais majeur des industriels dans le réarmement européen, Jean-Baptiste Huette.
Ils sont ingénieurs, techniciens, cadres, ouvriers. Demain, ils quitteront leur bureau et leur chaîne de production pour défiler sur les Champs-Élysées. Derrière eux, ce sont en réalité les usines de défense qui entrent dans la lumière. Celles et ceux qui fabriquent les missiles, les satellites, les lanceurs, les avions, les hélicoptères, les drones. Car une armée ne repose pas seulement sur ses soldats. Elle dépend aussi de milliers de fournisseurs, de machines, de composants et de compétences industrielles. Et pour tout cet écosystème, la pression est désormais considérable. Selon les derniers chiffres du cabinet AlixPartners, les dépenses militaires européennes ont bondi de 71% depuis 2020 et pourrait encore augmenter de 400 milliards de dollars d'ici à 2035. Les carnets de commandes débordent, il faut donc accélérer coûte que coûte la production, mais produire davantage ne se décrète pas, il faut ouvrir de nouvelles lignes, recruter, former, sécuriser les matières premières et faire monter toute la chaîne de sous-traitance. Le véritable défi n'est donc plus seulement de voter des milliards ou de commander des armes, mais bien de les livrer rapidement et en série. Et c'est pour ne pas perdre de vue cette nouvelle réalité que les industriels défileront demain au pas.
Et puis les potentiels IPO d'Anthropic et d'OpenAI bouleversent le marché immobilier à San Francisco, Léo.
Oui, acheteurs et vendeurs anticipent en fait l'arrivée imminente d'une nouvelle très grosse génération de millionnaires. Alors d'un côté, on veut aller vite avant l'envolée des prix, et de l'autre, on n'hésite pas à demander des paiements en actions, Paul Valère.
Une maison mise en vente à 2,5 millions de dollars, remisée à 2 millions si l'acheteur paye en actions Anthropic. Un exemple parmi tant d'autres dans la baie de San Francisco, où les vendeurs surfent déjà sur les introductions en bourse à venir d'OpenAI et Anthropic, chacune valorisée à près de 1 000 milliards de dollars. Certains n'hésitent pas à pousser leurs locataires vers la sortie pour vendre car les prix s'envolent. Le mois dernier, 44 maisons ont été vendues à au moins 1 million de dollars de plus que leur prix affiché. C'est 144 depuis le début de l'année. Les professionnels du secteur interrogés par le New York Times déclarent n'avoir jamais vu ça et les prix pourraient encore s'emballer. Un acheteur s'est dépêché d'acquérir une maison à 5 millions de dollars pour devancer un millier d'autres personnes qui allaient avoir un budget de 30 millions de dollars, dit un agent immobilier. Les introductions en bourse d'OpenAI et Anthropic pourraient, avec celle de SpaceX, créer plus de 16 000 millionnaires et plus de 20 milliardaires.
Merci beaucoup. Ah oui, non, vous avez encore quelque chose à dire?
Dernière information.
Pardon. C'est moi.
En Corée du Sud, avec le début ce matin d'une grève nationale. Ça se passe chez Hyundai Motors. Mais alors, la grève, elle est partielle, 4 heures par jour seulement, jusqu'à mercredi, avec près de 40 000 salariés qui doivent prendre part à ce mouvement. Et deux revendications, une hausse des primes de performance et des salaires d'un côté, mais aussi le report de l'âge de départ à la retraite pour toucher justement ces salaires et ces primes plus longtemps.
Merci Léo. Les marchés. À moins d'une heure de l'ouverture, en ce 13 juillet, Nicolas, la tendance.
On attend des marchés européens orientés dans le rouge, hein, en recul à l'heure actuelle, que ce soit pour le DAX ou le CAC 40, en lien avec la hausse des cours du pétrole ce week-end, donc sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. On rappelle que le baril de Brent est aux alentours des 79$, que le WTI est lui aux alentours des 74$. Au-delà du risque géopolitique, on a toujours cette grande thématique intelligence artificielle et notamment semi-conducteurs, hein, qui donne le la sur les marchés financiers. On a notamment eu l'IPO réalisé vendredi au Nasdaq par SK Hynix. SK Hynix qui est déjà cotée à Séoul. Elle a levé 26,5 milliards de dollars sur le marché américain. On parle ici de la deuxième plus grosse IPO de tous les temps. SK Hynix, pour ses premiers pas en bourse, donc à Wall Street, a progressé de plus de 12% en clôture, voire même après avoir touché même une progression de 18% en séance. La valeur n'a pas réussi à emmener tous les acteurs du marché, hein, puisqu'on a vu Nvidia gagner 4%, AMD gagner 2%, Texas Instruments gagner 1%, mais à l'inverse, Intel et Broadcom ont clôturé dans le rouge. Et on voit en Asie que SK Hynix coté à Séoul perd 13% à l'heure actuelle, soit à peu près l'intégralité de ce qui avait été gagné à Wall Street donc vendredi. D'ailleurs à Wall Street, on voit que les trois grands indices ont tous clôturé dans le vert. On voit au niveau des taux qu'il se passe la même chose que ce qu'on avait vu mercredi dernier. La progression des prix du pétrole se ressent sur les taux américains qui reviennent sur les mêmes niveaux de mercredi. Le 10 ans américain est à 4,58, le 30 ans américain est à 5,08. À noter rapidement côté valeur, hein, puisque on attend l'ouverture des marchés européens à présent, que EasyJet a progressé de 14% vendredi, porté par l'offre du fonds Apollo supérieure à celle du fonds Castle Lake, offre donc acceptée par EasyJet. Et Vodafone, hein, qui va accueillir Xavier Niel comme premier actionnaire du groupe, a vu son titre progresser vendredi de 11,5%.
Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouve à l'issue du journal de 8h30. On sera ensemble aussi pour le club de la bourse. Culturia, tout de suite.
Good morning business. Culturia.
On parle de quoi ce matin, Anthony Morel? Parce que je n'ai pas les bonnes feuilles.
Ah, ben oui, on parle d'Apple qui accuse OpenAI d'espionnage industriel.
Exactement, via le recrutement d'ailleurs.
Oui, c'est ça. En fait, c'est assez. Enfin, il faut sortir le pop-corn parce que ça va être le feuilleton judiciaire tech de l'été, cette histoire. C'est-à-dire OpenAI qui accuse Apple d'avoir mis en place, Apple qui accuse OpenAI plutôt d'avoir mis en place une véritable filière de récupération de secrets industriels, de recruter massivement des salariés chez Apple dans le but de récupérer toutes les informations sur leurs futurs produits. Au cœur de la plainte, il y a un monsieur qui s'appelle Tang Tan. Pendant 25 ans, il a supervisé tous les grands lancements de produits chez Apple, les iPhones, les Apple Watch. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment du poids au sein de l'entreprise et il est fini par partir et rejoindre Sam Altman chez OpenAI. En fait, il est maintenant patron de la division hardware. Donc c'est lui qui supervise les futurs produits conçus par OpenAI. Bon, jusqu'ici tout va bien, sauf que c'est à partir de ce moment-là que les choses auraient commencé à déraper. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les entretiens d'embauche, quand OpenAI essaye de débaucher des salariés chez Apple, ce qui arrive assez régulièrement, on leur demande des choses un petit peu bizarres. On leur pose des questions, par exemple, assez insistantes sur les futurs produits d'Apple. On leur demande également de venir aux entretiens d'embauche avec des prototypes de produits d'Apple. Alors là, quand même, c'est un peu abusé. Je pense que même ceux...
Ça va loin. Hein.
Oui, c'est ça. Même ceux qui acceptent, ils se doutent bien qu'il y a quelque chose d'illégal, mais enfin certains le font quand même. On leur pose donc plein de questions comme ça. Et alors, ce qui va encore plus loin, c'est qu'une fois qu'ils ont accepté, qu'ils ont signé leur contrat chez OpenAI, on leur demande de partir avec le plus, on leur demanderait, je utilise le conditionnel, c'est ce que dit la plainte en tout cas, de partir avec le plus d'informations possibles de chez Apple et de les rapatrier chez OpenAI. Il y aurait même une checklist, c'est-à-dire vraiment un guide de comment faire sortir des informations sans éveiller les soupçons des équipes de sécurité d'Apple. Alors la plainte regorge d'exemples concrets. Il y a l'exemple d'un ingénieur qui est parti il n'y a pas longtemps avec un MacBook plein de secrets industriels, ce qu'il n'a pas rendu évidemment, et même avec un bug d'accès. Visiblement, il a continué à avoir accès au réseau interne et au serveur interne de l'entreprise une fois qu'il était parti, et donc il avait accès à toutes les futures sorties produits d'Apple, par exemple, dont il a pu faire profiter OpenAI.
OpenAI dément.
Alors, OpenAI dément, absolument. Ils expliquent qu'ils n'ont aucun intérêt dans les secrets industriels d'autres entreprises. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, il y a quand même 400 salariés qui ont quitté Apple pour rejoindre la maison mère de ChatGPT. Alors, il y avait des packages salariaux particulièrement intéressants. Le dernier exemple en date, c'est le mois dernier, le responsable de la partie lunettes connectées chez Apple qui travaille maintenant chez OpenAI. On pourrait se dire que c'est le jeu de la Silicon Valley, la guerre des cerveaux. Mais ce que dit Apple, c'est que, en réalité, ils tentent de recréer chez OpenAI OpenAI, la machine de développement de produits Apple, et de récupérer non seulement les futurs produits, mais aussi les secrets de fabrication. C'est vraiment le process industriel de comment fonctionne la machine Apple, sachant que vous savez qu'il y a un des gros enjeux pour OpenAI, eh bien ça va être de concevoir une nouvelle génération de produits qui intégreront ChatGPT, peut-être des smartphones, peut-être des écouteurs. Donc évidemment, s'inspirer d'Apple, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, ce sera à la justice de trancher si c'est le jeu de l'offre et de la demande sur le marché de l'emploi, tout simplement, ou si ça peut s'apparenter à une forme d'espionnage industriel.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Vous restez avec moi, c'est la French Tech.
Good morning business, French Tech.
La French Tech ce matin, et nous recevons Julien Or, directeur général et cofondateur de Bor Énergie. Bonjour.
Bonjour Sam.
Merci d'être avec nous dans cette matinale de l'économie, start-up toulousaine. C'est un chiffre méconnu en France, mais la France compte plus d'un million de producteurs d'énergie renouvelable. Vous fonctionnez comment pour ces producteurs ?
Merci de me recevoir. Donc nous, on est un agrégateur d'énergie renouvelable. Donc notre métier, c'est d'aider les producteurs d'ENR à maximiser leurs revenus sur les marchés de gros de l'énergie. Donc nous, on adresse pas les particuliers, mais on adresse vraiment les professionnels de la filière qui développent des solutions solaire, éolienne, hydraulique et de stockage. Donc avec l'arrivée des renouvelables sur le réseau électrique, il y a besoin de beaucoup de flexibilité et d'aider aussi le réseau à se stabiliser. Donc nous, on a deux missions. Un, capturer les revenus des marchés de gros et d'aider à la flexibilité du système électrique. Donc ça, c'est notre mission première. Donc comment nous le faisons ? Nous avons développé une plateforme d'IA qui permet de se connecter aux actifs renouvelables. Une fois qu'on est connecté à eux, on peut ensuite les piloter, c'est-à-dire les arrêter, les redémarrer en fonction des signaux de prix de marché de gros et en fonction des signaux de prix aussi des mécanismes de réserve. Donc ça, c'est moins connu, les mécanismes de réserve, c'est pour aider le réseau à stabiliser et la fréquence ou la tension en temps réel. Donc on fait tout ça en temps réel, donc on a énormément de données, on utilise beaucoup l'IA aussi pour remonter ces données, faire des prévisions de production, parce que c'est lié à la météo, donc on doit aussi prévoir qu'est-ce qui va se passer au niveau météorologique pour savoir dans le futur que va produire l'actif de nos clients, et ensuite avoir des prévisions de prix de marché de gros et des prix de marché de réserve.
Donc c'est une plateforme de trading énergétique, si on peut dire.
Notre métier, c'est d'optimiser ces actifs renouvelables. Il faut savoir aussi que les renouvelables ont été développés sur la base de subsides d'État à l'époque, et donc ouais, en fait, sûr. On est en train de faire une transition, et nos producteurs sont exposés de plus en plus au marché de gros.
Mais alors là, comment vous leur assurez de gagner de l'argent ? Parce qu'en ce moment, j'imagine, avec la canicule, on va se retrouver avec des prix quasiment négatifs, non, sur le marché du solaire, par exemple.
Alors, il y a énormément de volatilité dans les prix de marché de gros. Pour chaque pas de temps de la journée, il y a un prix donné. Et donc, ça varie au fur et à mesure de la journée. Quand il y a des prix négatifs, donc quand il y a un surplus d'énergie sur le réseau électrique, quand on va en territoire négatif, notre mission, nous, c'est d'arrêter la centrale à ce moment-là. Donc, on la pilote à distance. On est connecté directement au système de la centrale. On la pilote et on la redémarre. Et on la redémarre quand les prix repartent à la hausse. Donc, ça aussi, ça permet aux producteurs de ne pas subir une perte financière à ces moments-là. Ça aide aussi le réseau à se stabiliser. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2026, les énergies renouvelables peuvent participer au mécanisme de réserve avec le réseau électrique. Donc là, on va vraiment dans le nouveau monde de l'énergie où il y a toute cette flexibilité qu'on peut utiliser pour aider le système électrique.
Vous avez annoncé une levée de fonds, vous avez levé 10 millions, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez notamment aller sur le marché européen ?
Oui, donc la transition énergétique, elle est en France, mais elle aussi en Europe. Donc en fait, les problématiques que rencontrent les producteurs sur le territoire français, c'est la même chose en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Et donc nous, notre plateforme, elle permet d'intégrer plusieurs milliers de sites de production en même temps et de les piloter de façon automatisée. Donc on a pensé toute la chaîne de façon à ce que ce soit optimisé et automatisé, de l'onboarding du client jusqu'à la valorisation. Donc cette levée de fonds va nous permettre de faire trois choses. Un, de continuer à développer notre gamme de produits sur la France. En deux, continuer massivement à investir dans la R&D, parce qu'avec l'IA, on arrive à faire beaucoup plus de choses qu'avant. développer des nouveaux pays et à aussi recruter du personnel en France et dans ces nouveaux pays.
Et donc là, vous parliez, vous êtes pour l'instant purement B2B, mais est-ce que vous pourriez aussi vous adresser aux particuliers à un moment, parce que tous ceux qui font de l'autoconsommation, ça pourrait potentiellement aussi les intéresser d'avoir ces outils de pilotage qui leur permettraient d'optimiser leur production.
Oui. Donc aujourd'hui, on fait déjà de l'autoconsommation collective, donc pour le B2B. Donc c'est par exemple une centrale hydraulique sur une rivière qui va vendre à une mairie, okay, à un EHPAD, à un hôpital. Donc nous, dans ces opérations, on est le tiers de confiance qui gère la structuration de l'autoconsommation collective. L'autoconsommation individuelle des particuliers, c'est un autre métier. Nous, notre segment est vraiment de rester sur le B2B.
D'accord.
Vous parliez de l'Espagne et de l'Italie. Est-ce que pourquoi vous commencez par ces pays-là? Est-ce que leur politique énergétique est un peu similaire à la nôtre dans le fonctionnement?
Alors, pourquoi l'Espagne en premier? Ils ont eu une intégration du solaire et des renouvelables très très puissante, très très forte depuis les dernières années. On a regardé ce qui s'était passé l'année dernière aussi sur le réseau électrique espagnol avec le blackout.
Ça pourrait éviter ça, justement, ce genre de gestion?
Donc, ce genre de gestion automatisée et l'intégration des batteries de stockage aussi. Donc, ça, c'est la nouvelle frontière des marchés de l'énergie avec l'intégration du stockage hybridé avec des renouvelables ou en stand-alone tout seul va permettre justement d'apporter des solutions de façon à limiter les problématiques réseau.
Ouais, c'est ça. Alors les batteries, expliquez-nous comment ça transforme complètement la donne, parce que est-ce qu'il y aura encore besoin de tout ce trading énergétique une fois qu'on pourra simplement stocker l'énergie dans les batteries et la réutiliser au moment le plus opportun?
Oui, donc tout à fait. Donc l'intégration des batteries va permettre donc d'absorber l'énergie. Donc on parlait tout à l'heure, nous on coupe quand il y a des prix négatifs et on rallume après. Là c'est la même chose, mais au lieu de couper la centrale, vous la laissez produire et vous stockez l'énergie dans la batterie qui est à côté du site. Mmh. C'est des sites colocalisés. Et vous restituez l'énergie qui a été stockée plus tard dans la soirée quand les prix sont plus élevés. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de fondamental.
Oui.
Ça amène énormément de complexité dans la gestion à la fois financière, technologique et vis-à-vis du réseau électrique. Donc il faut, aujourd'hui, le rôle que nous, on tient, c'est vraiment l'orchestrateur de cette optimisation et cette valorisation.
Merci beaucoup Julien Aure, directeur général et cofondateur de Bore Energy, d'avoir été ce matin dans la French Tech. Dans un instant, parole de patron, je reçois Margot Prévost qui avait repris Florette l'année dernière. Elle va nous parler de reprise d'entreprise. À tout de suite.
Good morning business. Parole de patron.
Parole de patron ce matin, c'est avec Margot Prévost, repreneuse de Florette et cofondatrice d'Elnis. C'est le groupe qui chapeaute Florette et d'autres entreprises. Vous avez donc repris Florette, cette marque de fleurs durables, il y a un petit peu plus d'un an. Comment s'est passée cette année de reprise, Margot?
Oui, alors Florette, c'est une marque de fleurs durables. Donc, on fait de la fleur séchée, mais aussi des fleurs en papier, des fleurs artificielles, des accessoires fleuris. Et on a repris donc la marque il y a un peu plus d'un an. Et en fait, depuis un an, on continue le projet dans la lignée de ce qui avait été commencé il y a des années, en apportant nous-mêmes notre touche au fur et à mesure. Et un des projets qui nous tient à cœur et sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment, c'est la relocalisation d'une partie de notre production. Et donc, l'installation d'un atelier de production en France, en Loire-Atlantique, à une trentaine de kilomètres de Nantes, pour pouvoir produire chez nous, dans notre bâtiment, une partie des bouquets et des bougies fleuries aussi, qui sont un produit qui plaît beaucoup.
Avant de revenir là-dessus, c'est qui vos clients, par exemple ?
Alors, nos clients, c'est un peu tout le monde. On a à la fois des gens qui ont envie d'avoir un bouquet chez eux et aussi des hôtels, des restaurants, des lieux qui ont envie d'avoir une décoration florale qui change un peu de ce qu'on peut voir. La particularité de Florette, c'est qu'on dépoussière un peu les codes de la fleur durable. C'est pas des fleurs séchées un peu passées en couleur ou des fleurs artificielles comme on pouvait retrouver chez nos grands-mères. On essaie vraiment de donner une image vivante et un côté vivant et coloré à ces fleurs durables.
Alors, cette relocalisation en Loire-Atlantique, pourquoi avoir choisi de relocaliser? Et quelles difficultés vous avez rencontrées dans le process?
Oui, alors nous, on trouve que c'est très important. On est un peu à rebours de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui délocalisent, qui vont produire ailleurs. Nous, on pense que c'est vraiment important de garder des savoir-faire chez nous et de continuer à préserver les gestes, à apprendre les métiers. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de créer nous-mêmes. Et aujourd'hui, les difficultés qu'on peut avoir, elles sont nombreuses. Oui. Et c'est toujours des projets qui prennent du temps. On a aussi beaucoup de travaux à faire dans le bâtiment pour pouvoir internaliser la production. Et ça, c'est un gros gros enjeux. Ça prend toujours plus de temps et plus de budget que ce qu'on avait prévu. Aujourd'hui, on a commencé le projet. On a déjà réinternalisé toute la logistique. Aujourd'hui, c'est des fleuristes qui préparent et qui expédient les commandes tous les jours. Et on a déjà commencé la partie production aussi. Elles font des bouquets au quotidien. Et on a déjà une petite chaîne de production de bougies fleuries. Mais on est vraiment à capacité maximale. Les bougies partent aussi vite qu'on les produit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'espace, d'agrandir pour pouvoir augmenter la capacité et avoir un vrai espace de production Made in France.
Vous avez aussi choisi donc de reprendre cette entreprise et non pas d'en créer une et de partir de zéro. Pourquoi vous avez fait ce choix spécifiquement il y a un peu plus d'un an ?
Je pense que c'est assez d'actualité. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui sont à reprendre ou qui vont être à reprendre dans les prochaines années. Beaucoup de dirigeants aussi qui vont partir à la retraite et dont on pourra reprendre les entreprises. Aujourd'hui, ça fait moins rêver. Il y a un peu un mythe autour de l'entrepreneur qui crée son entreprise de zéro dans son garage. Le repreneur, il n'y a pas vraiment de mythe et ça donne un peu moins envie. Et pourtant, c'est super important parce que derrière ces entreprises, il y a déjà de la valeur qui est créée, il y a des emplois parfois, il y a déjà des choses qui existent et qui pourraient perdurer. Et je pense qu'on est à une époque où on parle beaucoup de durabilité, d'engagement, d'écologie, etc. Et aujourd'hui, créer une nouvelle marque qui va ajouter peut-être du bruit au bruit, si on n'apporte pas quelque chose de vraiment différent, de vraiment nouveau, je ne suis pas sûre que ça ait toujours du sens. Alors que donner un deuxième souffle à une marque qui existe déjà, ça me paraît plein de sens.
On parle aussi de bonnes pratiques. Fleurette a révélé en février dernier faire face à un impayé de plusieurs dizaines de milliers d'euros de la part du BHV depuis plus d'un an. Vous en êtes où, là, dans cette procédure-là ?
Alors aujourd'hui, la procédure est toujours en cours. Sur le côté légal, c'est entre les mains des avocats et de la justice. Et voilà, on laisse la justice faire son travail. Nous, ce qui était important pour nous à ce moment-là, c'était de beaucoup communiquer, d'être très transparent vis-à-vis de notre communauté sur tout ce qui se passait. Parce que au-delà des enjeux d'impayés qui ont un impact sur la trésorerie, ça a un gros impact sur une PME de ne pas être payée. Et ça, c'est un impact sur la trésorerie à court terme, mais aussi sur les projets qu'on veut développer et qui du coup sont freinés. Et c'est un retard qu'on rattrape jamais complètement parce que le temps de rattraper ce qui s'est passé, le contexte a changé, il y a des nouvelles difficultés, il y a des nouvelles choses qu'il faut prendre en compte. Et donc ça chamboule un peu tous les projets.
Donc on voit qu'il n'y a aucun dossier qui vous fait peur. En un an, vous êtes mis sur pas mal de dossiers. Quel message vous voulez passer ou quel message vous voulez entendre à moins d'un an de la présidentielle ? C'est justement faciliter la relocalisation, c'est travailler sur les délais de paiement, c'est favoriser la reprise d'entreprise, c'est quoi ?
Alors moi, je ne suis pas une experte de la politique, mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que dans les débats, on entend beaucoup, souvent le même type de personnes et beaucoup des grandes entreprises qui échangent avec les personnalités politiques, qui prennent la parole et qui ont des problématiques qui sont les leurs, mais qui sont assez différentes en fait au quotidien de celles des PME ou des TPE, qui sont quand même aujourd'hui le poumon économique de la France.
Oui.
Donc j'aimerais bien que ces entreprises-là, les petites entreprises comme la nôtre, puissent peut-être être plus entendues, prendre plus la parole, être sur des plateaux, enfin en tout cas qu'on comprenne quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs quotidiens, qui est très réaliste, enfin voilà, c'est très concret, et que du coup on comprenne quels sont leurs besoins et que ça puisse être pris en compte ensuite dans des décisions politiques, mais surtout déjà avoir un siège à la table et faire entendre quelles sont notre réalité au quotidien.
Vous avez combien de salariés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est une petite dizaine, on est 7 dans l'équipe et on espère bientôt plus dans les prochaines semaines, prochains mois.
D'après la CCI Paris-Île-de-France, 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. Effectivement, avoir une place pour en parler, ça paraît une bonne proposition. Merci beaucoup Margot Prévost d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie, repreneuse de Fleurette et cofondatrice d'Elnis. Dans un instant, le flash de 8h30, on parlera du coup d'envoi de cette semaine du marathon budgétaire Matignon qui doit rendre ses premiers arbitrages avant mercredi. C'est dans un instant, à tout de suite.